Depuis 28 ans, l'Église a l'habitude de célébrer le 11 février, la journée du malade. Mais la célébration de ce moment, de cette journée de prière, est proposée pour le dimanche le plus proche. Donc, ce serait aujourd'hui que l'Église nous invite à célébrer cette 28e journée de prière pour les malades. Et en fait, en France, on l'a appelé ce dimanche le dimanche de la santé. Alors, nous allons bien sûr confier au Seigneur dans cette Eucharistie tous ceux et celles que nous connaissons et qui sont en souffrance d'une manière ou d'une autre, corporelle ou morale ou spirituelle. Et nous allons bien sûr les confier dans cette chapelle des apparitions au cœur de Jésus. D'autant plus que dans son message pour cette journée mondiale du malade, le pape François commence en disant ceci, et c'est le thème en fait de ce message qu'il nous donne. Les paroles que Jésus prononce, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Matthieu, chapitre 11. C'est bien de savoir cet unique passage de l'Écriture où Jésus lui-même parle de son cœur, hein, 11, le verset 28. Voilà. Et le pape continue, voilà, ces paroles indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se révèle aux simples et qui offre un soulagement à ceux qui peinent et qui sont fatigués. Alors évidemment qu'on pourrait tous prendre ces paroles pour nous, n'est-ce pas ? Même si officiellement on n'est pas déclaré malade gravement. Et un peu plus loin, le pape François dit « Jésus n'impose pas de loi à ceux qui vivent l'angoisse de leur propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse. Mais il offre sa miséricorde, c'est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde l'humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui aperçoivent, car il regarde en profondeur. Il ne s'agit pas d'un regard rapide et indifférent, mais qui s'attarde et accueille tout homme, tout l'homme, dans sa condition de santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une expérience de tendresse. » Fin de citation. Nous voyons que par ces paroles, bien sûr, le Saint-Père pense à ceux qui sont malades et pour qui nous prions aujourd'hui, mais en même temps, il est en train de dire que ses frères et sœurs restent chrétiens comme tous les autres. C'est-à-dire qu'ils gardent leur vocation à la sainteté, même si leur condition est de grande fragilité. Et parfois, peut-être nous-mêmes avons tendance à les isoler un peu, à les mettre à l'écart. C'est comme si c'était une espèce particulière, enfin. Non, il s'agit de nos frères et sœurs qui, en fait, sont d'autant plus reliés au Seigneur qu'ils sont en train de souffrir comme lui. Et ils reçoivent cette grâce particulière justement au moment où ils reçoivent, surtout à ce moment-là, hein, le sacrement des malades. Hein, ils sont vraiment associés à la passion du Seigneur, justement à cet amour de son cœur transpercé. D'une manière mystérieuse, ils participent au salut de l'humanité. Alors, prions pour eux, mais confions-nous aussi à leurs prières. Et pensons peut-être en visitant les malades de leur dire cela. N'oublie pas ta vocation. Tu n'es pas inutile. Et cette tentation vient souvent dans la tête hein, de ceux qui sont peut-être voilà, depuis des années sur un lit d'hôpital ou à la maison. Eh bien, la prière de nos frères et sœurs malades a une puissance extraordinaire. Alors, ce n'est pas ici le lieu d'en donner des témoignages, mais je pense que vous pouvez en avoir. Eh bien, voilà, demandons au Seigneur de nous inspirer les bonnes paroles. Voilà pour aider nos frères et sœurs à vivre leur vocation chrétienne pleinement, même dans les moments de grande douleur. Et par rapport aux paroles que Jésus nous a données, venez à moi, hein, je suis doux humble de cœur. Et bien justement, comme dit le pape François, il ne veut jamais s'imposer. Et il y a bien sûr Marguerite Marie dans ce lieu qui nous rappelle quelque chose de très très beau, et elle insiste souvent sur cela, de cet amour de cœur de Jésus qui veut rejoindre le cœur de tout un chacun. Et là, il s'agit aussi de nous-mêmes maintenant, d'accueillir cette douceur de cœur de Jésus. Et en plus, cette année jubilaire de la canonisation de Marguerite Marie, c'est une occasion d'approfondir vraiment et sérieusement cet appel. Marguerite Marie dit ceci à un moment donné: la dévotion de ce sacré cœur ne doit point être forcée, mais il veut lui-même s'insinuer doucement et suavement par sa charité dans les cœurs. Il n'y a rien de plus doux ni de plus suave et en même temps de plus fort et de plus efficace que la suave onction de l'ardente charité de cet aimable cœur pour convertir les âmes les plus endurcies et pénétrer les cœurs les plus insensibles. Eh bien, demandons nous-mêmes, voilà, pour nous, cette douceur du cœur de Jésus, que nous puissions en faire l'expérience, et en même temps, afin de mettre en pratique aussi les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui, de savoir comment la répandre, comment permettre à beaucoup d'autres en faire cette expérience. Alors, celle de la terre, lumière du monde, des images, des éléments créés, hein, qui essaient de nous renvoyer à des réalités spirituelles. Alors, je voulais simplement vous proposer à garder cette image du sel, non pas seulement dans le sens où le sel donne du goût, hein, et c'est vrai, hein, souvent les aliments sont fades s'il n'y a pas de sel, mais surtout de prendre peut-être l'autre sens, l'autre rôle du sel, en fait, qui est de garder, de conserver, de préserver de la corruption, on pourrait dire. Et dans ce sens aussi, de penser à la fidélité, en fait. Notre vie chrétienne est appelée à progresser sans cesse. C'est-à-dire que voilà, ce goût nouveau que nous avons reçu depuis que nous connaissons Jésus, que nous avons reçu la douceur de son cœur, eh bien, doit rester tout le temps dans notre vie. Il ne s'agit pas d'avoir un sens à la vie que de temps en temps, mais tout le temps. Et l'image du sel peut nous inspirer à demander au Seigneur justement la fidélité, hein, dans notre vie chrétienne, la persévérance, la persévérance. Et concernant la lumière, eh bien, dimanche dernier, je finissais justement l'homélie ici avec le cierge à la main pour ceux qui étaient là. C'était la chandeleur, la présentation de Jésus au temple, où lui-même était nommé lumière des nations. Voilà qu'aujourd'hui, Jésus veut comme nous transmettre, nous passer le flambeau, quoi, en disant, ben, c'est vous maintenant qui allez donner cette lumière, qui allez aider le monde à avancer dans la sécurité. Le monde est beau même quand il fait nuit, nous disait ici un des chapelains il n'y a pas longtemps. Et il répète souvent cette image, voilà. Mais quand la lumière arrive, on voit la beauté du monde. Eh bien, au niveau spirituel, voilà le rôle des chrétiens que nous sommes, malades ou pas, en très bonne santé aussi, dans le monde dans lequel nous vivons. Et alors, je me permets de vous citer une très belle lettre, une très belle épître, très ancienne, de la fin du IIe siècle, qui a été écrite à un certain Diognète. Et je vais m'arrêter ensuite en vous laissant, voilà, garder chacun, chacune d'entre vous dans son cœur ce que le Seigneur lui dira à travers ses paroles. La première partie, vous allez voir, est d'une grande actualité, et la deuxième, évidemment, elle utilise des paroles liées au contexte de la philosophie grecque de l'époque. Je cite donc cette épître à Diognète. Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ni aux rêveries d'esprit agité que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue. Et par là, ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les Grecs et ceux qui les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'est pas du corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais ne sont pas du monde. Invisible, l'âme est retenue prisonnière dans un corps visible. Ainsi, les chrétiens, on voit bien qu'ils sont dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible.